应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. En cette semaine de vacances scolaires, les yeux et la voix de Pierre rejoignent les miens à travers l'espace et le temps devant notre petite toile radiophonique, laquelle se fait aujourd'hui l'écrin du visage crispé de Nathalie Portman, alias Jackie, dans le film de Pablo Larraín. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi.
Alors Jackie, c'est évidemment Jackie Kennedy, qui reçoit la visite d'un journaliste peu de temps après l'assassinat de son présidentiel époux. Le film donne à voir les événements, bien sûr, les quelques heures précédant l'attentat, les quelques jours vaporeux et électriques l'ayant suivi, mais il en montre également la narration, le souvenir encore brûlant, saccadé à fleur de peau de la première dame des États-Unis d'Amérique, et la façon dont elle va se servir de cette narration pour construire l'histoire, le mythe de la famille Kennedy et du mandat de son mari.
Oui, alors, tu me connais à force, hein, Rémi. Moi, je suis un homme simple. Tu me balances la famille Kennedy, Nathalie Portman, film qui se passe dans les années 60, et je suis un homme comblé. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film, voire adoré. Après, bien sûr, il y a une certaine limite, parce que c'est un film qui est quand même extrêmement lourd. Ça, je suis forcé de le reconnaître, hein, je suis allé le voir fort bien accompagné, et il a fallu un certain temps de réhabilitation avant de pouvoir parler de quoi que ce soit, tellement c'est un film lourd. Mais en même temps, eh ben mine de rien, cette lourdeur s'inscrit dans un des points très forts de ce film, à savoir le côté intimiste, avec un jeu d'acteur phénoménal. Parce que oui, tenir le rôle de Jackie Kennedy, surtout pour un film qui se concentre sur ce personnage, sur toutes ses émotions, qui revient petit à petit en arrière sur des événements assez marquants, par exemple tenir la cervelle de son mari entre les mains et sa tête ensanglantée en train de dégouliner sur ses genoux, je veux pas dire, mais ça a pas l'air d'être le moment le plus fun d'une vie de couple. Du coup, avoir mis Nathalie Portman dans ce rôle, c'était une très très bonne idée, je trouve, parce que c'est une actrice qui est extrêmement forte au niveau de la représentation des émotions, de la représentation fine des émotions. Bien sûr, hein, on met de côté ses errances autour de Star Wars, mais Nathalie Portman est quand même une actrice qui a un talent assez incroyable et qui fonctionne extrêmement bien dans le film Jackie. Ce film est intimiste et donc apporte une nouvelle vision de ces événements, de l'assassinat de Kennedy. Le film ne s'en cache pas, hein, forcément, ça parle de la période entre l'assassinat de Kennedy et ses funérailles, mais c'est très intelligent au sens de c'est pas l'élément central du film. C'est presque un arrière-fond. L'élément central, c'est vraiment Jackie elle-même, c'est ce personnage campé par Nathalie Portman. Et du coup, la construction du film est extrêmement pertinente et très intelligente, je trouve, avec cette interview faite entre ce journaliste très intéressant, même s'il participe pas beaucoup à l'avancée du film, et Jackie Kennedy qui revient petit à petit, justement, sur ces événements qui mènent aux funérailles de son mari. Donc on a, bien sûr, ce point de vue très personnel de toute cette période. C'est pour ça que c'est un film extrêmement lourd, parce que on se concentre sur le malheur d'un personnage. Et c'est un malheur quand même extrêmement fort. On se concentre sur ce personnage, sur son combat pour faire des funérailles de son mari quelque chose d'extraordinaire, de mémorable. Et à la fois, ça rentre dans la logique du marketing des Kennedy, de cette fiction politique qui s'est créée dans les années 60 et qui perdure encore aujourd'hui. Mais ça donne un aspect extrêmement humain. Et on voit l'envers du décor, on voit la personne derrière les images. Et d'ailleurs, cet envers du décor est extrêmement bien foutu, je trouve, avec le mix des images d'archives dans le film. Ne serait-ce que la visite de la Maison Blanche, la visite guidée de la Maison Blanche faite par justement Jackie Kennedy, qui était la première fois que le public américain a pu voir ce qu'il y avait dans la Maison Blanche. Je me suis vraiment posé la question au niveau de la réalisation. Est-ce que c'est vraiment la voix de Natalie Portman ou est-ce que ce serait pas la voix de Jackie Kennedy, de la vraie, tirée justement de ces images d'archives? Alors que des fois on se demande si ce sont pas des images d'archives et après paf, on voit le visage de Natalie Portman et on se dit « Ah non, je me suis fait avoir ». Du coup, je trouve que c'est vraiment bien bien foutu au niveau de la réalisation, le fait de mélanger des images d'archives et de se les réapproprier dans le film. Ce qui marche beaucoup au niveau historicité. Et comme vous le savez, je suis, on va dire, historien de formation, pour la dire vite, et du coup, il y a une attention très forte portée aux détails, ne serait-ce qu'au niveau de la garde-robe de Jackie, au niveau des personnages présents, au niveau des petits événements qui sont relatés dans les souvenirs de Jackie Kennedy. Et du coup, je me pose vraiment la question, par moment, de savoir s'ils n'ont pas utilisé des vraies images d'archives qui se mêlent au film lui-même. Et j'ajouterais même à ça, je me pose des questions sur la véracité du film, pas au sens de « ça a l'air faux », mais au sens de « jusqu'à quel point est-ce qu'ils ont poussé le fétichisme historique pour coller à la véritable histoire ?» Et donc, je termine sur un dernier point, parce que je sens que Rémi, tu t'énerves au fait que mon commentaire dure beaucoup trop longtemps. Et du coup, je trouve que la réalisation, au niveau technique, est très intéressante, vraiment bien faite, avec le ratio, le format donc de l'image qui se rapproche énormément des images d'archives, avec plus un 4/5e je crois au lieu d'un 16/9e. Ça colle vraiment aux images qu'on a de la télévision des années 60. Et aussi il y a une forme d'efficacité au niveau de la simplicité de la réalisation, ne serait-ce qu'entre le journaliste et Jackie, avec des champs contre champs fixes. On va dire que en gros il y a trois types de plans utilisés, encore deux types de plans répartis sur trois plans utilisés tout au long de cette période de ce moment d'interview, et ça marche particulièrement bien. Du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, je le recommande vivement. Même si c'est pas le film qu'il faut aller voir quand vous dites « Allez, j'ai envie de me payer une bonne tranche d'humour, j'ai envie de sortir joyeux et tout, je veux y aller avec une bande de potes », non. C'est le genre de film où vous vous posez dans le canapé pour regarder ça et vous finissez en mangeant de la glace avec un paquet de mouchoirs à côté de vous. Voilà.
Alors merci beaucoup Pierre pour cet avis. En ce qui me concerne, je suis loin d'être aussi emphatique que tu as pu l'être. Je vais passer assez vite sur certaines réussites formelles que tu as évoquées. L'image en 16 mm et les couleurs sont vraiment magnifiques. On a de très très belles couleurs chaudes qui nous font vraiment revivre d'une certaine façon une ambiance. Et à ce titre, comme tu le disais, la reconstitution historique millimétrée est vraiment réussie. On sent un travail extrêmement sérieux là-dessus. Mais bon, je passe également sur les seconds rôles, qui sont extrêmement plats, fades. Je les ai trouvés vraiment très mécaniques. Et j'ai un petit peu l'impression qu'ils font ce qu'on attend d'eux. Je pense à ces politiciens qui s'inquiètent de leur carrière et de questions de sécurité, sans plus, ou de ce prêtre qui répond que tout va toujours mieux après un bon café. Enfin bref, des seconds rôles pas particulièrement fouillés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui ont au moins le mérite de laisser toute la place possible à Natalie Portman, qui, on est bien d'accord, est quand même extrêmement centrale dans ce film. Natalie Portman qui ici est loin d'être servie par une réalisation du niveau de celle qui l'avait faite briller dans Black Swan, mais qui n'en joue pas moins l'un de ses plus grands rôles à ce jour, et elle est vraiment omniprésente à l'image, elle est absolument partout, et ça participe de cette démarche mythologique, hagiographique, autour du personnage de Jackie Kennedy, mais qui est quand même très très incarné par la figure qui a quelque chose de mythique aussi de Natalie Portman, cette démarche mythologique mise en œuvre par Pablo Larraín dans ce film. Et justement, c'est là que je voulais en venir, on a vraiment l'impression de voir exactement le même film qu'avec Neruda il y a un mois. Il s'emploie exactement de la même façon à décortiquer la naissance d'un mythe, à décortiquer la naissance d'un icône et la construction par une personne d'un mythe autour de sa propre personnalité. Alors, avec Neruda, c'était une comédie parce que cette naissance se faisait par la création. Ici, dans Jackie, elle se fait par la destruction de la famille, la destruction de l'État, la destruction du couple. Mais peu importe, parce que c'est vraiment la même démarche. Quand on voit Jackie tenant la cervelle de son mari, on ne voit pas une femme éperdue d'horreur et de souffrance, on voit vraiment le début du mythe de la plus célèbre veuve de l'histoire des États-Unis. Et il y a cette démarche mythologique ou hagiographique, justement, c'est ça qui est à débattre, qui traverse tout le film. Et en fait, c'est là que Larraine se trompe, c'est là que le réalisateur se fait avoir, c'est là que toute la réalisation pêche. Je trouve qu'au lieu d'observer le mythe, au lieu d'essayer d'en analyser la substance, il se laisse avoir, il se laisse entraîner par le mythe, et nous le montre non plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'il ne réussit jamais à nous montrer vraiment la femme sous la First Lady. Qu'il n'arrive pas à ce degré de profondeur, et seul Portman y parvient par instant. Elle y arrive de temps en temps en portant vraiment son personnage à bout de bras. Je pense à cette scène de délire solitaire dans la Maison Blanche le soir de l'assassinat, où vraiment le génie de l'actrice prend le pas sur la lourdeur de la caméra, pour le dire comme ça. Plusieurs fois, j'ai cru que le film sondrait un petit peu les failles, les fissures de son personnage, qui sont quand même extrêmement intéressantes. Il y a cette scène où Jackie souhaite un happy birthday qui en rappelle un autre, par exemple, mais non. À chaque fois, le film échoue à excéder ce qui relève finalement de la pure hagiographie, et je trouve que c'est vraiment dommage dans la démarche du réalisateur. Et en témoigne la musique du film, et je terminerai là-dessus, une musique qui est vraiment omniprésente dans le film et qui est d'une excessive solennité avec des violons et des violoncelles à n'en plus finir. Et à ce titre, je dois dire que je n'ai jamais été aussi insupporté par une musique de film, une musique intrusive jusqu'à la dictature, c'est proprement insupportable. Cette musique écrase le jeu de Portman, elle nous vole notre place de spectateur en nous dictant notre conduite pendant les 2 heures de film. C'est véritablement infernal, et à ce titre, si je suis sorti soulagé de la salle, c'est pas parce que le film était mauvais. Le film ne casse pas 3 pattes à un canard, je trouve, mais n'est quand même pas mauvais. Mais j'étais vraiment soulagé d'en avoir fini avec cette BO qui, décidément, ne me revient pas. Alors, reste, malgré tout, le visage de Nathalie Portman qui plane au-dessus d'ensemble et sur lequel, je pense, on s'accordera, Pierre. C'est vraiment une grande prestation d'une grande actrice. Enfin voilà, pour ce Jackie de Pablo Larraine, si vous voulez vous faire votre propre avis, vous pouvez toujours vous rendre dans les salles du CNP Terreau où il est encore en salle pour quelque temps.
Ted, suit up!
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What? Danger zone.
Say my name. Eisenberg. You're goddamn right.
Cool.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Bonjour Rémi, bonjour à vous, chers auditeurs sériphiles. Aujourd'hui, on va prendre un thème résolument belliqueux en parlant de 2 séries format court sur la guerre. Ne vous inquiétez pas, ce sont des séries humoristiques. Parce que oui, des fois, la guerre, bah c'est drôle. Du coup, je ne vous parlerai pas des incroyables Generation Kill, Band of Brothers ou The Pacific, que je traiterai dans un prochain épisode, mais aujourd'hui, je vais commencer en vous parlant de Loin de chez nous. C'est une série écrite, réalisée et jouée par Fred Scotland, ancien militaire, produite par France 4 et aujourd'hui accessible légalement sur Netflix. Elle a donc été diffusée pour la première fois en septembre dernier sur France 4. Bon, je vous préviens de suite, je n'ai pas réussi à aller au bout des 10 épisodes. Pour plusieurs raisons que je vais donc vous dévoiler. La série raconte l'histoire d'une unité d'éclaireurs français, une fois n'est pas coutume, en Afghanistan qui accueille une journaliste indépendante. Sauf que le chef de l'unité est embarqué dans un trafic avec des collègues américains en pleine période de retrait des troupes françaises. Du coup, on suit tous les personnages de la base, du capitaine au nouveau conducteur de VAB, en passant par le padré, la médecin du groupe et la journaliste. Bref, c'est un cocktail de plein de personnages, malheureusement tous stéréotypés, qui rentrent on ne peut plus facilement dans les différentes cases du cahier des charges du bon film de guerre des MIFA qu'on regarde sur TV Braze un jeudi soir de vacances. Paix à l'âme de TV Braze d'ailleurs, qui m'a fait découvrir le génialissime A Bridge Too Far, que je recommande aux aficionados de films de guerre saisissants avec une pelletée d'acteurs célèbres, un bon scénario basé sur des faits historiques et des moyens incommensurables. Mais je m'égare, voyez à quel point j'essaye de parler d'autre chose que de cette série. Revenons donc aux différents points que je n'ai pas aimés dans Loin de chez nous. En premier lieu, ce qui m'a le plus déstabilisé, c'était le ton. On oscille vraiment entre du poétique bien foutu et de l'humour potache. Alors au bout de 3 épisodes, je commençais sérieusement à me poser des questions, et je me suis penché sur les interviews offertes par le site France4.fr, et il s'avère que l'auteur, réalisateur, acteur principal souhaitait créer l'humour par la situation, donc en faire une comédie cachée dans une série réaliste. Bah sauf que ça marche pas du tout, parce que dès le début, on se dit qu'on regarde une comédie, et hop, on tombe sur des moments vraiment sérieux, par exemple la mort d'un soldat dès le premier épisode. Après, on a quelques petites scènes par-ci par-là qui vous plombent l'ambiance comme une rupture d'anévrisme en pleine orgie du dimanche. Et puis, faut l'avouer, quand il y a bien de l'humour, c'est assez potache, style pipi-caca. Oui, ça tombe si bas. Pour preuve, la journaliste réussit à intégrer l'unité du personnage central pour la simple et unique raison qu'elle tombe sur le capitaine en train de se masturber. Voilà, vous l'avez compris, je ne suis pas fan du tout de ce genre d'humour potache à 2 roubles. À chaque fois que je vois entrer dans le champ le personnage du padré, qui est supposé être le comic relief, j'ai envie de le baffer. Mais n'ayant pas particulièrement envie de détruire l'écran de mon ordinateur pour si peu, j'ai donc arrêté de regarder la série à l'épisode 5. Épisode où l'intrigue se lance vraiment. Oui oui, sur un total de 10 épisodes. Ce qui nous amène donc à mon deuxième point, l'histoire. Ah là 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 là, ça progresse pas, c'est d'une lenteur, c'est un film français pur jus. Ça ouvre plusieurs arcs qu'on aimerait bien voir complétés, mais il y en a tellement de petits que ça ralentit tout. Après on pourrait se dire que c'est l'idée de faire fourmiller les détails pour vraiment recréer le sentiment d'observer la vraie vie véritable des militaires réels, mais c'est plus frustrant qu'autre chose. Les dialogues sont d'une lenteur pour des moments qui gagneraient justement en vivacité. Par exemple, les négociations avec l'Américain. Elles sont présentes à chaque épisode et sont le cœur de l'histoire. Mais à force de les voir, j'avais qu'une envie, c'était de lire le résumé sur Wikipédia et passer à l'épisode suivant. C'est assez insupportable. Après, la série propose plein de petits moments qu'elle explique plus tard ou dans l'épisode suivant. C'est intéressant, ça rajoute une forme de beauté, mais ça brise le rythme plutôt que de lui en donner un. Bon. Pour finir, vous savez que moi, les séries, les films, les bouquins, etc., j'adore les genres très typés, style SF, guerre, noir et autres. Mais ça ne veut pas pour autant dire que j'aime tout ce qui est cliché. Si V, je l'ai adoré, c'est parce qu'elle établissait des clichés, parce qu'il y avait quand même une pointe de créativité qui montrait à la fois une maîtrise des codes et une volonté de faire mieux, d'ajouter quelque chose. Et bah là, face à Loin de chez nous, je n'ai fait que retrouver les codes des films de guerre, mais mal fait. Alors, bien sûr, je peux excuser les clichés quand ils sont faits gentiment, mais là, c'est vraiment trop, les personnages ne sont pas drôles, manquent de profondeur, puisque ce sont juste des stéréotypes sur pattes. Des fois, on a un semblant de réflexion, mais paf ! On nous la met dans le mille. Par exemple, la journaliste qui délivre son discours sur « Oui, je sais que vous pensez que je suis à l'aise dans mon petit confort et que je suis venu à la recherche de... » Mais tais-toi, bon sang de bois ! C'est insupportable. On la connaît, la rengaine. On nous la sort à chaque fois que c'est possible, cette image du reporter de guerre qui sort de son quotidien et se retrouve à la guerre. Mais merde, quoi! Dans Generation Kill, ça marche parfaitement. Parce que le reporter est un blanc-bec qui vit vraiment comme les militaires et qui les intègre petit à petit tout au long des 10 épisodes d'une heure. On a le temps, ça progresse vraiment. Il est ridicule au début, mais au petit à petit, on s'y attache. Il s'attache au personnage et le personnage s'attache à lui. Ça marche, quoi. Alors que dans Loin de chez nous, ils essayent de nous montrer tellement de trucs en 20 minutes bah que les personnages ne progressent pas du tout. Bon, après, ce n'est pas tout mal. Il y a vraiment des plans superbes. Mais voilà, disons que ça s'arrête là, l'intérêt. Ça aurait pu être un bon film militaire contemplatif sur la vie des soldats, mais non, il a fallu en faire une série dont les codes ne sont pas du tout bien intégrés. Ils n'ont pas écouté ma chronique, bien sûr. Et surtout, il a fallu rajouter ce stupide humour qui vient tout gâcher. Et puis sérieux, il y a un truc que je n'ai pas compris. Ils ont un vrai vab pour tous leurs plans autour du véhicule, mais dès qu'on le voit en mouvement, c'est une image de synthèse dégueulasse. Alors, pour les hélicos, je peux comprendre, mais quand on a un vab, on s'amuse pas à faire un effet par ordi dégueulasse qui vous fait piquer les yeux, quoi. Vous l'avez donc compris, j'imagine, je n'ai pas du tout aimé cette série. Après, je la recommande vivement à mes ennemis, bien sûr, mais aussi, par exemple, à des personnes qui, je pense, aiment South Park. Ça pourrait marcher au niveau de l'humour, et après, des personnes plus curieuses qui s'intéressent à ce que c'est qu'une série de guerre, etc. Bien sûr, France 4 propose des séries bien mieux, mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à regarder Loin de chez nous, c'est toujours intéressant de regarder les séries ratées. En vrai, en regardant cette série, je n'arrêtais pas de penser à une autre série, américaine cette fois-ci, qui traitait aussi de la guerre avec humour, et qui est un monument de l'univers télévisuel. Et non, je n'exagère pas, encore aujourd'hui, je trouve que cette série est un véritable modèle. Je parle bien sûr de, à ton avis, Rémi ?
Alors, ma connaissance assez limitée de l'univers télévisuel...
Eh bien, c'est MASH. M-A-S-H.
Ah, mais c'est pas une série.
Eh ben si, je ne vais pas parler du film, ni du livre, je vais parler de la série qu'il y a eu entre les deux. Et encore, je ne vais pas vous parler de toute la série, je vais vous parler des trois premières saisons que D'accord. j'ai absolument adorées, qui sont parfaites, sur 11 au total. Il y a 11 saisons, je tiens à le préciser. Mais donc voilà, je ne vais pas vous parler du film dont j'ai entendu un peu trop de mal venant de ceux qui ont adoré la série. Mais bel et bien de cette série de 11 saisons produite par la 20th Century Fox et diffusée sur CBS entre 1972 et 1983. Mais là, je vais vous parler que des trois premières saisons, celles où l'équipe originale est encore présente, même si pour le coup j'ai entendu dire du bien des saisons suivantes. Parlons donc de MASH. Elle est célèbre pour plusieurs raisons, à savoir son acteur principal, Alan Alda, un joyau, une pépite, une perle rare que l'on peut retrouver dans À la Maison Blanche, par exemple. Mais aussi, une série célèbre pour avoir montré du personnel noir américain à la télévision américaine avec un message profondément humain, antimilitariste et antiraciste. Sauf que hors de question de mettre les pieds dans le plat et d'en faire une série qui ouvre des portes ouvertes. Non. Non. Rappelez-vous, on est en 1972, soit dans la période d'intensification de la guerre du Vietnam. Bien sûr, la série se passe en Corée, entre 1950 et 1953. Certes, caser 11 saisons, c'est-à-dire 11 Noël, 11 Pâques, etc., dans une guerre qui a duré 3 ans, c'est un peu compliqué, mais bon, passons. L'humour est vraiment présent, avec des personnages tous hauts en couleur. Ils sont simples à identifier, avec des rôles relativement cadrés. Mais aucun n'est un vrai stéréotype. Les créateurs de la série ont pu donner un vrai goût authentique à chacun, même au personnage principal, médecin tombeur pacifiste et terriblement farceur. Je pense, là, pour le coup, qu'Alan Alda joue pour beaucoup. Mais ce personnage est vraiment parfait. Ils le sont tous, en fait. Même le père de l'unité, le prêtre, qui s'avère être un prêtre catholique, oui, dans une unité de l'armée américaine, ça passe pour un élément humoristique qui marche très bien, qui peut apporter une réflexion, un personnage intéressant et utile. Mais bon, l'humour est extrêmement subjectif, je dois l'admettre, et si j'adore MASH, c'est parce que j'ai grandi avec le Muppet Show, qui m'a appris l'humour, on va dire physique, avec des gens qui se prennent les pieds dans des trucs, l'humour de situation, avec un décalage constant entre les grandes périodes de déconne et les blagues à répétition dans le bloc opératoire, et surtout, l'humour incisif, apporté sur un plateau de platine, avec des répliques acerbes et tellement hilarantes. Je ne saurais vraiment pas retranscrire tout l'humour qu'il y a dans cette série, où chaque blague passe parfaitement et m'a fait éclater de rire tant aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Sur une note plus personnelle, je considère qu'une comédie est réussie quand elle fait rire mon petit frère de 7 ans de moins que moi, ma mère et moi-même. Et bah MASH est une série qu'on regarde toujours avec plaisir. Et ce n'est pas tout. Ce qui fait de cette série vraiment un exemple de perfection, c'est qu'il y a des passages vraiment forts sur la guerre, sur la vie et tous ces sujets sérieux qu'on essaye d'éviter quand on veut faire rire. Cette série ne s'en cache pas, contexte de guerre oblige à la fois dans la diégèse de la série que dans le contexte de création. Et j'ai jamais été aussi touché en regardant une série que face aux actes de bonté, d'humanité, de tous les personnages de cette série qui doivent faire face au ridicule de l'administration, de la guerre à outrance avec des passages assez horribles, mais aussi du racisme et bien plus encore. Après, j'avoue qu'on peut facilement taxer cette série de sexiste, puisque les deux personnages principaux couchent avec toutes les infirmières du camp. Sauf que déjà, tout le monde couche avec tout le monde dans ce camp. Et surtout, cette série montre un vrai respect envers les autres, un respect pour la personne, un respect qui apparaît naturel entre les personnages. C'est une série juste parfaitement humaine, génialement drôle et vraiment très intelligente, qui s'adresse à tous les publics. Du coup, je lui accorde 30 missions de l'UNESCO sur 30 guerres, avec la mention à regarder en famille pour faire de vos enfants des gens bien et partager un moment parfait.
Et nous continuons avec quelques idées de sortie pour ceux qui ne sont pas rentrés chez eux pour les vacances scolaires. Et je commencerai par Les Fleurs Bleues d'Andrzej Wajda, qui nous plonge dans la Pologne d'après-guerre où le célèbre peintre Władysław Strzemiński, figure majeure de l'avant-garde, enseigne à l'École nationale des beaux-arts de Lodz. Il est considéré par ses étudiants comme le grand maître de la peinture moderne, mais les autorités communistes ne partagent pas cet avis car, contrairement à la plupart des autres artistes, Strzemiński ne veut pas se conformer aux exigences du parti et notamment à cette esthétique du réalisme socialiste. Expulsé de l'université, rayé du syndicat des artistes, il subit, malgré le soutien de ses étudiants, l'acharnement des autorités qui veulent le faire disparaître et détruire toutes ses œuvres. Ce film Les Fleurs Bleues, qui passe au CNP Bellecour, est le dernier de l'immense cinéaste polonais Andrzej Wajda, qui s'est ingénié toute sa vie à montrer les rouages de l'histoire et de la politique dans ses films, et je ne peux que vous conseiller d'aller le voir sans plus tarder. Je continue avec American Honey de Andrea Arnolds, qui suit un van lancé à toute vitesse sur les autoroutes américaines avec à son bord une quinzaine de jeunes survoltés dont on ne saura à peu près rien, si ce n'est qu'ils viennent de familles prolétaires et qu'ils ont décidé, afin de survivre, de traverser le pays pour vendre des abonnements à des magazines en faisant du porte-à-porte. Et c'est leur périple intense, jalonné de rencontres, d'accidents, de petites arnaques, que suit la réalisatrice en les menant sur les chemins d'une liberté illusoire, à l'image de ce qui avait pu être montré par Léa Fener dans Les Ogres l'an dernier, et ça donne un road movie dont beaucoup saluent la vivacité phénoménale et l'énergie proprement hors norme. Alors à ceux qui avaient apprécié Les Ogres l'an dernier et puis aux autres également, je vous conseille d'aller voir ce film American Honey. Je continue avec un documentaire sur David Lynch en salle actuellement au CNP Bellecour. Ce film est un portrait inédit de l'un des cinéastes les plus énigmatiques de sa génération. De son enfance idyllique dans une petite ville d'Amérique aux rues sombres de Philadelphie, David Lynch entraîne le spectateur dans un voyage intime rythmé par le récit hypnotique qu'il fait de ses jeunes années. En associant les œuvres plastiques et musicales du réalisateur à ses expériences marquantes, le film lève le voile sur les zones inexplorées d'un univers de création totale. Donc voilà, aux amateurs de David Lynch et puis aux passionnés de cinéma, rendez-vous dans les salles du CNP Bellecour pour ce film. Et je termine avec un film qui va repasser ce week-end à l'Institut Lumière, samedi à 20h30 et dimanche à 18h45, Trainspotting de Danny Boyle, qui suit les aventures tragicomiques de Mark Renton, junkie d'Édimbourg, qui va tenter de se séparer de sa bande de copains, losers, menteurs, psychopathes et voleurs. Alors un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma, avec une représentation assez inédite et extrêmement forte de la drogue en Angleterre, que je ne peux que vous conseiller d'aller voir si vous voulez vous confronter au mythe Trainspotting. Ouais, d'Étoile plein les yeux, c'est terminé pour ce 48e numéro. Aujourd'hui, c'était Rémi Certa et Pierre Lemoël. Nous sommes de retour la semaine prochaine avec très prochainement Silence, Moonlight et Dans le secret de la chambre noire, là pour le programme des deux prochaines semaines. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de vacances ou peut-être seulement deux semaines dans les salles obscures.